c'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour.
À la une ce matin, la mobilisation des anti-masques hier. De Londres à Zurich en passant par Paris, mais la plus spectaculaire était à Berlin. Près de 40 000 personnes avec des incidents autour du Reichstag. Dans le reste de l'actualité, Hélène.
Le plan de relance détaillé mardi avec 5 milliards pour le ferroviaire. On y reviendra. Un multi-récidiviste très suivi par la justice à Nantes qui a violé et tué une jeune fille le 20 août dernier, passé aux aveux hier. Et puis du sport, trombe d'eau et de chute sur le Tour de France hier pour la première étape. Du foot côté femmes, finale de la Ligue des Champions, OL Wolfsburg, les Lyonnaises parties peut-être pour un 7e titre. Enfin de la voile, départ à 13h de la solitaire du Figaro, Armel Lecléache, favori et lucide, vous l'entendrez.
Et puis à partir de 8h20, question sur l'école de masse, l'idéal de la méritocratie. Remis en cause dans un livre que signe notre invité de 8h20, le sociologue François Dubé.
France Inter. On les appelle les corona-sceptiques, militants anti-vaccins, conspirationnistes, sympathisants d'extrême droite. Ils étaient près de 40 000 dans les rues de Berlin hier, sans masque évidemment, 200 manifestants interpellés. Et puis cette scène devant le Reichstag, un groupe a franchi les barrières qui entourent le Parlement allemand avant d'être évacué par la police. De quoi commencer à sérieusement inquiéter les autorités. David Philippot est à Berlin pour Inter.
Il était 19h30 hier soir, une rumeur folle s'empare de la foule. Donald Trump serait arrivé à Berlin pour soutenir les manifestants. En quelques secondes, tout s'accélère. 2 à 300 personnes s'élancent vers le Parlement. Ils escaladent les barrières, montent le grand escalier en brandissant des drapeaux du Reich, noir, blanc et rouge. Au dernier moment, ils sont stoppés par 3 policiers, avec pour seule arme leur matraque. Ils leur bloquent l'accès à la porte de verre du Parlement. La scène est très rapide, mais elle est symboliquement très forte. Elle rappelle les images des années 30. Certains néo-nazis font d'ailleurs le salut hitlérien au pied des marches du Parlement. Ils appartiennent à la mouvance radicale des Reichsbürger, des gens qui refusent de se conformer aux lois de la République fédérale. Pour eux, Angela Merkel est une marionnette entre les mains de puissances occultes. Comme il l'avait annoncé sur les réseaux sociaux, certains manifestants ont passé une partie de la nuit sur la pelouse devant le Reichstag. Ils veulent faire le siège du Parlement jusqu'à ce que le régime tombe. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Manifestation des anti-masques aussi à Londres, à Zurich, en Suisse et puis à Paris où plus d'une centaine de personnes ont été verbalisées. Le virus qui gagne encore du terrain, 78 000 cas en 24 heures en Inde, record mondial, 25 millions de cas recensés dans le monde. C'est dans ce contexte donc que se profile en France une rentrée scolaire inédite. 12 millions d'élèves reprennent le chemin des classes après-demain, mardi, avec des enseignants masqués toute la journée. Idem pour les collégiens ou les lycéens. Pas question en revanche d'imposer le masque aux plus petits, comme le réclame un collectif de médecins. Jean-Michel Blanquer, ce matin, dans le journal du dimanche, est catégorique, affirme suivre les conseils des pédiatres. Le ministre de l'Éducation n'exclut pas, par ailleurs, que des écoles ou des classes restent fermées. Ce sera du cas par cas, dit-il. On peut aussi imaginer un protocole plus strict dans les mois, les semaines qui viennent, prévient encore le ministre, qui détaille par ailleurs son Grenelle des professeurs, axé début octobre sur les 400 millions d'euros supplémentaires et la hausse des salaires. Dans le JDD encore, Marlène Schiappa veut naturaliser les travailleurs étrangers qui ont été au front pendant le confinement. Éboueurs, personnel hospitalier ou caissier, la ministre déléguée à la citoyenneté va écrire au préfet pour accélérer leurs demandes.
C'est une des conséquences du confinement, le plan de relance.
Présenté mardi, jour de rentrée par le patron de Bercy, Bruno Le Maire détaille le plan à 100 milliards d'euros en Conseil des ministres, avec, on le sait déjà, Fabien Cazeau, un effort particulier pour le train.
Il y aura bien un volet ferroviaire conséquent. Son montant devrait avoisiner les 5 milliards d'euros. Ils proviendront en partie de fonds européens. Une enveloppe jugée nécessaire par le gouvernement pour moderniser le réseau, relancer les petites lignes secondaires, un maillage qui, avant même d'envisager son développement, coûte déjà 1 milliard par an d'entretien à la SNCF, à l'État et aux régions. L'État qui souhaite également relancer les trains de nuit, une bonne alternative au transport aérien, se réjouit-on du côté des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Une attention toute particulière devrait également être portée au fret. Le Premier ministre avait annoncé fin juillet la gratuité des péages pour le transport de marchandises en 2020, leur division par deux pour 2021. Des décisions similaires pourraient être prises pour les prochaines années. Les autoroutes ferroviaires sont appelées de toute façon à se développer entre Sète et Calais, entre Bayonne et Cherbourg. outre le train des primeurs Perpignan-Rungis que l'État compte relancer.
Pas de quoi convaincre les syndicats de cheminots. La CGT a lancé un préavis de grève pour la journée du 17 septembre contre les suppressions de postes qu'elle a évaluées autour de 3000 pour l'année à venir. La politique avec les universités d'été, celle du PS ce week-end à Blois. Le patron Olivier Faure persiste et plaide pour le rassemblement avec les écologistes pour 2022. Pas d'accord du tout, François Hollande, dans les colonnes de Ouest-France, qui met les pieds dans le plat et refuse les ralliements. Le PS, dit-il, doit rester la grande force centrale, suivie par ses proches, à commencer par Stéphane Le Foll ce matin dans le JDD.
Il est 7h05. Alors qu'il est suivi par la justice, un multirécidiviste a violé et tué une adolescente de 15 ans. C'était le 20 août dernier.
Évidemment, ça pose question. Cet homme de 45 ans, condamné en 2005 pour une douzaine de viols, a été mis en examen hier soir et placé en détention provisoire après avoir avoué le meurtre de cette jeune fille dans un immeuble désaffecté du centre-ville de Nantes. Une récidive que la justice n'a pas su voir venir. Florian Cazola, France Bleu Loire-Océan.
C'est un échec pour la société, lâche Yvon Olivier, le procureur de la République adjoint de Nantes. Un échec parce qu'à aucun moment la justice n'a trouvé un quelconque indice qui puisse lui laisser penser que le multirécidiviste de 45 ans allait encore passer à l'acte.
Dans ce dossier, on a affaire à quelqu'un qui offre une figure tout à fait lisse, de quelqu'un qui respecte toutes les obligations mises à sa charge et surtout l'obligation de soins. Et en fait, on est dans une situation où nous avons un suivi socio-judiciaire qui est intégralement respecté et pour autant, ça n'a pas suffit à prévenir la récidive légale.
Depuis sa sortie de prison, il y a 4 ans, il voyait une fois tous les deux mois une psychothérapeute, mais les pulsions, elles, n'ont jamais disparu. Et devant les enquêteurs, l'homme n'en a pas fait un secret, explique Pascal Gontier, le directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de Rennes.
Contrairement à ce qu'on pouvait redouter, un mutisme total, au regard de ce qu'aujourd'hui il encourt, il a livré spontanément des aveux précis et circonstanciés.
Tout comme en 2005, lors de son premier procès pendant lequel et l'avocat général et les experts avaient pointé du doigt un grand risque de récidive chez cet agent de maîtrise décrit comme quelqu'un de froid mais capable de reconnaître ses faits et d'exprimer une forme de regret.
Quelque part entre l'Italie et Malte, tous les passagers du Louise Michel ont quitté le navire. Ce bateau affrété par l'artiste Banksy et qui, surchargé, avait lancé hier un appel de détresse. Les migrants les plus vulnérables, une cinquantaine, ont été évacués par les gardes-côtes italiens. Les autres sont sur le bateau de l'ONG Sea-Watch 4.
Allez, on passe au sport avec d'abord le Tour de France autour de Nice.
Première étape hier complètement folle. Des trombes d'eau autour de Nice, des coureurs en pagaille sur le bitume. On y reviendra dans le journal de 7h30. Après les hommes, voici les femmes. Elles, si on en parle moins, elles ont une vraie chance. On parle de foot. Ligue des champions, la finale ce soir entre Lyon et Wolfsburg. Ça se joue à Saint-Sébastien dans le Pays Basque. Une victoire face aux Allemandes et ce serait un 7e sacre européen. OL Wolfsburg, le duel des sœurs ennemies, Alexandre Vaux.
Si l'OL féminin domine la Ligue des champions depuis maintenant 4 ans, Wolfsburg a été la deuxième équipe la plus présente en finale ces 8 dernières années. Les Allemands ont même réalisé un doublé en remportant la compétition en 2013 contre l'OL et en 2014. Puis la tendance s'est inversée avec 2 finales perdues cette fois face aux Lyonnaises en 2016 et 2018. Lyon reste désormais sur 4 titres d'affilée, 6 victoires finales au total, record de la compétition d'ailleurs chez les femmes, avant de retrouver donc son meilleur ennemi en finale ce soir. Ce sera la 4e finale entre les deux équipes, la 8e finale franco-allemande depuis 2010 entre deux nations qui écrasent aujourd'hui le foot féminin européen. Un clin d'œil aussi à la finale masculine de dimanche dernier remportée par les Allemands du Bayern Munich face au PSG.
Et coup d'envoi ce soir à 20h. Allez, on prend le large pour finir parce que c'est aussi ce midi, 13h, le départ de la prestigieuse course à la voile de la solitaire du Figaro. 35 skippers sur la ligne de départ à Saint-Quay-Portrieux, c'est dans les Côtes d'Armor, dont le chouchou double tenant du titre, vainqueur du Vendée Globe, Armel Lecléache, toujours aussi modeste et lucide.
Bien sûr, on ne peut pas se cacher, hein, quand on a gagné le Vendée Globe et quand on a été acteur sur le circuit Figaro, comme ça a été le cas il y a encore quelques années déjà maintenant. Mais oui, quand on revient, bien sûr, on a une étiquette et il faut pouvoir l'assumer. Maintenant, ce n'est pas une pression supplémentaire. Moi, je connais la difficulté de la course. C'est toujours compliqué d'être aux avant-postes pendant 4 étapes. Finir sur le podium à Saint-Nazaire, c'est l'objectif. Mais d'ici là, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Déjà, la première étape, elle va être longue et pleine de pièges avec plus de 1200 km au compteur. Hein, donc, c'est pas anodin pour une première étape qui va d'entrée être jeune, montrer un petit peu les forces en présence, même si on se côtoie tous un peu les uns les autres sur différentes courses de préparation. Là, on va quand même changer de braquet. Et effectivement, la pression de la solitaire va aussi peut-être permettre à certains de se révéler et d'autres peut-être d'être un peu plus en difficulté. On verra, en tout cas, ce sera intéressant.
Armel Lecléache avec Joanne Moison de France Bleu Armorique. Départ de la solitaire à 13h tout à l'heure pour une arrivée le 19 septembre dans cette belle ville de Saint-Nazaire.
Hélène Roussel, votre prochain journal, ce sera à 8h. Le temps de ce dimanche, Jean-Michel Golinski. Bon, c'est une météo souvent instable et plus fraîche que la normale. Hein.
Ah, tout à fait, Eric, mais avec tout de même une embellie sensible du ciel entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, dans l'extrême sud-est du Languedoc-Roussillon à la Provence. Mistral et Tramontane à 80 km à l'heure vont dégager le ciel des pluies d'orage qui circulent en début de journée. Mais sur la montagne Corse, le risque d'averse va persister avec du vent fort sur les caps. Partout ailleurs, la journée sera rythmée par un régime d'averse, parfois orageuse, avec un vent de secteur nord très désagréable aux environs de la Manche. Vent qui va maintenir les températures entre 17 et 18 degrés du nord Finistère aux Flandres maritimes. Le maximum sera de 27 pour la Corse, de 30 pour le comté niçois et de 20 degrés en moyenne sur le reste du pays.